Je pourrais, paraphrasant le début des Confessions du citoyen de Genève, Jean-Jacques Rousseau, dire qu'aux avants, nous formons une entreprise qui n'a pas d'exemple. Je vais m'expliquer, et tout particulièrement en ce qui me concerne, moi, dans cette session des avants, je me sens tout à fait dans ce cas-là. Vous avez noté, vous l'avez entendu tout de suite de la part de Louis-Michel, je dois intervenir trois fois, enfin deux fois et demie. Ce matin, par rapport à l'Écriture sainte, Dieu libérateur dans le Premier Testament. Demain matin, sur ce qui est indiqué dans l'histoire, quel est l'impact du ferment évangélique, c'est-à-dire en quoi l'Évangile est subversif. Et puis, ce soir, avec Isabelle, évoquer et vivre, essayer d'habiter les Negro Spirituals. Alors, l'écriture, l'histoire, la musique. Où je suis embarrassé, c'est de savoir dans quel ordre il aurait fallu que nous fassions les choses. Tant pis, nous sommes embarqués. Vous pourrez toujours dire que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Maintenant, je m'en fiche, je suis parti. Parce que au groupe des dons, on traite toujours l'histoire avant l'écriture. Et là, on traite l'écriture avant l'histoire. Et pourtant, j'aurais bien besoin de. Parce que vous ne m'entendez pas. Bon, ben, je vais rapprocher. Je dis au groupe des dons, on traite toujours l'histoire avant l'écriture. Et ici, on traite l'écriture avant l'histoire. Et pourtant, j'ai besoin de faire appel à l'histoire dans l'exercice que nous allons essayer de faire ce matin, que vous allez essayer de faire avec moi ce matin. Et pour ce qui est du ferment évangélique, j'annonce déjà la couleur. Je vais privilégier, vous allez comprendre aisément pourquoi, l'expérience de l'esclavage. Et puisqu'il y a Negro Spiritual à la clé, l'expérience de l'esclavage des Noirs américains. C'est ce dont je parlerai demain. On aurait pu parler de Darwin, de comment le christianisme fait craquer des vieilles coutures. Mais pour pas que notre session n'ait que de 5 jours, pour pas que nous nous écartions, prendre ce problème énorme, gigantesque, fondamental pour le christianisme, qui est celui de l'esclavage. Parce que, j'anticipe, toutes les églises, quelles qu'elles soient, ont justifié l'esclavage, Bible en main. Et quelque part, quand nous y pensons, nous, gens du 21e siècle, ça nous terrorise. Et cela a créé sans doute comme un fossé infranchissable entre les hommes issus de l'esclavage et ceux qui n'ont pas connu l'esclavage. Pour évoquer ce fossé infranchissable, je parlerai aussi demain de ce que travaillant avec l'aide du livre excellent de Bruno Chenu, dont l'assomptionniste, ancien président du groupe des Dômes, sur les Negro Spirituals. J'étais frappé, moi qui suis conservateur du musée de la France protestante de l'Ouest en Vendée, de ce que le comportement des premiers chrétiens africains-américains est le même que celui des Huguenots vendéens au XVIIIe siècle. Je vous l'expliquerai. Un de mes amis, quadragénaire, jeune professeur plein d'avenir et très brillant, d'histoire de l'université de La Rochelle, m'a dit une fois, les réformés français, ils ont une mentalité victimaire. Il disait ça comme un état de fait. Ce qui explique comment ils sont toujours prêts à se poser en victime. Et ce que les catholiques regardent avec étonnement, comme s'il y avait en eux une blessure qui n'arrivait pas à cicatriser. Comme il y a une blessure chez les Noirs africains-américains qui n'arrivent pas à cicatriser. Et ça touche à ce qui est le thème même de notre session, de notre cadre, notre raison d'exister, la réconciliation entre les églises. Alors, pour ce matin, On va pas traiter de l'évangile comme subversion, mais il faut quand même que nous l'ayons en arrière-pensée. Déjà, le film, comme Isabelle l'a dit, je n'avais pas pris la peine de le regarder. Donc je l'ai découvert comme quelques-uns d'entre nous. Mais au fond, il entre assez bien dans notre propos. Et nous construisons ensemble une réflexion. Je ne sais pas à quoi nous allons aboutir. J'imagine que Louis-Michel, ni Agathe, ni Paul pensent différemment de moi. Bon. Il y a une chose que je ne maîtrise pas, c'est le temps. Donc là, j'ai besoin d'autorité qui me rappelle éventuellement à l'ordre. Hein? Ben, les règles, c'est qu'on a une pause à... Je ne sais pas. Ah non, je ne décide pas. Moi, je suis... Il y a marqué pause à... Ah non, il n'y a pas de marqué. Mais 10h... Oui, 10h30, 10h45. On verra. Peut-être qu'on... Alors, par rapport à l'écriture, avant de vous parler, je prends des précautions, avant de vous parler de l'écriture dans l'Ancien Testament, de l'écriture, de la libération de Dieu libérateur dans le Premier Testament, bon, je vais faire un certain nombre de, prendre un certain nombre de précautions, mais je voudrais dire aussi que... Pour essayer de nous enraciner, de nous déplacer un petit peu. Je ne sais pas si je vais peut-être me casser la figure, mais ça ne fait rien, c'est déjà arrivé. Mais d'arriver à vous faire comprendre ce que je voudrais dire. Je pense à une histoire juive qu'aime bien raconter mon collègue Antoine Nouys. C'est quelqu'un qui va voir un rabbin à New York et puis qui lui dit « Je voudrais bien me faire juif, mais à condition que vous me montriez le paradis. » Alors le rabbin dit, oh ben c'est très facile. Alors il prend son manteau et son chapeau, il sort, il l'emmène dans sa voiture, et puis il parcourt des kilomètres et des kilomètres jusqu'à une banlieue incroyable et minable, avec des routes défoncées. Et puis il descend de voiture et il s'approche d'une pauvre cahute de rien du tout. C'est le soir. Et il regarde par la fenêtre de la bicoque et il voit un vieux plongé dans un grand livre et qui a l'air tout content. Et le rabbin dit au candidat au judaïsme, voici le paradis. Alors l'autre répond, pour un paradis, c'est plutôt minable. Et alors le rabbin dit, non, non, cet homme... Il lit la Bible depuis son enfance. Et maintenant, il est très vieux. Et maintenant, il commence à la comprendre. Il est au paradis. Alors, si je transpose pour nous, je dirais ma femme comme moi, on est comme Timothée et le disciple de Paul. On a été nourris aux Saintes Écritures dès notre enfance. Et. On a été nourri par elle et on a beaucoup de joie l'un et l'autre à partager sur les textes que nous lisons ensemble. C'est vraiment une des joies de notre existence. Et en même temps, je mesure ma paresse, la façon dont je ne ressemble pas à ce vieil homme, pas parce que je ne suis pas encore complètement vieux, mais parce que je n'ai pas cette soif de la parole, de la comprendre, de la travailler au corps, de faire qu'elle me donne ce qu'elle veut et peut me donner. Combien je ne fais pas d'efforts, combien je me contente de petits trucs qui quelquefois ne sont même pas de la parole, qui peut-être viennent seulement de moi. Comme quoi la parole se donne à qui la travaille, à qui la triture, à qui la rumine. Voilà. Ça, à mon sens, c'est si nous ne faisons pas cela, nous restons à la surface, voire nous nous projetons nous-mêmes dans la parole. Et le résultat n'est pas joli. Voilà, ces précautions prises, avant de vous introduire à la parole, qui se sera faite tout à l'heure avec le psautier et le psaume 107, je voudrais situer par rapport... L'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament, Dieu libérateur dans l'Ancien Testament. Bon, c'est commode, depuis que l'Église existe, d'avoir deux testaments, le premier et le nouveau. Il ne faudrait pas pourtant prétendre à une supériorité d'une partie sur l'autre, en l'espèce, naturellement, du Nouveau Testament sur l'Ancien. Certes, c'est une bêtise de dire l'Ancien Testament précède chronologiquement et le Nouveau Testament lui succède. Certes, l'Ancien Testament prépare à la connaissance, à la compréhension du Nouveau Testament. Mais vous savez aussi, j'enfonce des portes ouvertes, le Nouveau Testament n'est guère compréhensible sans la connaissance de l'Ancien Testament. On peut dire que pour les chrétiens, le Nouveau Testament aide à comprendre l'Ancien de la même façon que l'Ancien aide à comprendre le Nouveau. La lecture liturgique, par la place réduite qu'elle laisse à l'Ancien Testament dans les lectures du dimanche, pourrait laisser penser que l'Ancien Testament serait secondaire, voire, comme je l'observe quelquefois, facultatif pour les croyants. De même, ça touche plutôt le milieu catholique, mais aussi le milieu protestant, mais l'usage si répandu, alors là c'est les milieux protestants, de distribuer des Nouveaux Testaments indépendamment du reste de la Bible, accrédite la même idée. L'essentiel, c'est le Nouveau Testament. Il est bon d'entrée de jeu de rappeler, comme l'écrit l'apôtre Paul, que toute l'Écriture est divinement inspirée. Et quand il écrivait cela, il ne pensait pas au Nouveau Testament, puisqu'il n'existait pas. Il ne pensait qu'aux textes lus dans les synagogues, ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Ceci pour dire que le Christ est présent tout au long de l'Ancien Testament. Christ préexistant de tel qu'en parle Saint Jean, parole qui crée le monde, parole qui libère les hommes. Le Christ incarné, le Christ Dieu fait chair, est celui dont le témoignage est recueilli tout au long du Nouveau Testament, et par les évangélistes et par les lettres apostoliques. Et si nous parlons de Dieu libérateur au témoignage de l'Ancien Testament, nous affirmons en même temps qu'il s'agit du même Dieu libérateur dans le Nouveau Testament. Certains pensent que c'est le Père qui libère dans l'Ancien Testament et le Fils dans le Nouveau, comme on partagerait les tâches. Dès les origines de l'Église, les chrétiens ont cherché à explorer la voie ouverte par Jésus quand il dit « Examinez les Écritures, vous pouvez dire la suite, elles rendent témoignage de moi. » Et les pères de l'Église ont dépensé une acribie, un zèle inouï dans cette recherche qui nous laisse quelquefois rêveurs. Les profondeurs à laquelle descend Origène, par exemple, nous laisse vraiment très perplexes. Donc il y a plusieurs lectures possibles de la Bible selon l'objectif qu'on se donne. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour lire la Bible, et quand on est croyant, on ne la lit pas tout à fait comme les incroyants, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut la lire sous l'angle philologique, sous l'angle historique, sous l'angle culturel. Et il y a aussi des lectures croyantes où la lecture juive côtoie la lecture chrétienne dans une émulation extrêmement impressionnante. Étant entendu que pour les juifs comme pour les chrétiens, la recherche a le même objectif, le Seigneur. La lecture croyante peut utiliser tous les moyens techniques des sciences humaines contemporaines. Il reste que son objectif est spirituel. La rencontre intime de l'homme avec Dieu, de la créature avec le Créateur, de l'homme libéré avec son libérateur. Le Dieu de la Bible est historiquement, au sens de la composition du corpus biblique, voire de la rédaction de ses parties, d'abord le Dieu libérateur. C'est chronologiquement après, pour répondre à des préoccupations nouvelles, que Dieu sera aussi célébré comme le Dieu créateur. Dieu, le Dieu des Hébreux, c'est celui qui a libéré et dont on est invité à célébrer les merveilles de Dieu, les exploits de Dieu, ce sont toujours les exploits libérateurs dont le peuple est appelé à faire mémoire dans la reconnaissance et dans la joie tout au long de son histoire. C'est ce qui fonde la liturgie, l'expérience de la libération et la célébration dans la joie de cette libération. La libération est située dans le passé constitutif de son identité pour le peuple. Mais en la célébrant, on la fait aussi advenir. C'est dans le passé, mais quand on la célèbre, elle devient présente. Le Dieu qui a libéré les pères, nos pères, de l'Égypte, du lieu de leurs angoisses. En hébreu, Mitzraïm, qu'on traduit par Égypte, ça veut dire aussi angoisse au pluriel. Le pays d'Égypte, vous pouvez aussi entendre le pays des angoisses. Le Dieu qui a libéré les pères de l'Égypte est aussi celui qui libère leurs enfants des dangers qui les menacent. Quand nous célébrons la nuit de la Pâque, nuit par excellence de la libération de l'esclavage de l'Égypte, nous sommes rendus contemporains de la nuit fondatrice, de sorte que nous aussi, nous passons la mer. L'apôtre Paul le dit de façon étonnante dans la première aux Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mini commentaire, quand il dit nos pères, et qu'il l'écrit aux Corinthiens, il écrit à une église dans laquelle il y a des chrétiens d'origine juive, il y a des chrétiens d'origine païenne. Et ceux qui ont passé la mer Rouge, ce sont aussi leurs pères. Et puis l'autre, c'est le Christ, que l'apôtre Paul, tout naturellement, voit présent, comme le rocher qui abreuve le peuple dans le désert. J'avais un autre texte. 1 Corinthiens 10, verset, je n'ai pas noté. Merci, mon frère. Et puis j'avais une autre lecture que je peux prendre, c'est dans le livre, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 7, au chapitre 20. C'est oui, c'est l'histoire du rocher. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, la communauté but et le bétail aussi. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Vous avez vu des rochers qui marchent, vous? Donc, oui, interprétation de Christ omniprésent qui accompagne son peuple, et ce rocher était le Christ. Vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure du Christ présent dans l'Ancien Testament, dans la lecture qu'en fait l'apôtre. Et nous, où étions-nous? En quoi ce récit nous concerne-t-il? Il s'agit, je l'ai dit il y a un instant, par rapport aux Corinthiens, mais il s'agit aussi pour nous de nos pères. Lors de la libération de l'Égypte, nous existions déjà. Nous étions dans les reins de nos pères. Et avec eux, c'est ce que dit Paul, nous avons été sous la nuée. Nous avons passé au travers de la mer. Nous avons été baptisés. Nous avons mangé le même aliment spirituel et bu le même breuvage spirituel. Ce que Dieu donnait alors à vivre, c'est le Christ qui le donnait, à travers la figure du rocher. Cette libération, ancrée dans l'histoire, expérience fondatrice d'Israël qui sort d'Égypte, comme le dit le texte de l'Exode, comme un ramassis de gens, il ne sort pas comme un peuple, il sort comme une cohue, il se découvre alors un peuple quand il a été libéré. Cette libération doit être célébrée dans la reconnaissance génération après génération. La liturgie juive, comme la liturgie chrétienne, sont fondamentalement célébration joyeuse de la libération opérée par Dieu dans l'histoire des hommes. Libération renouvelée X fois dans l'histoire. Pensez simplement à l'expérience du retour de Babylone, du retour de l'exil pour Israël dans l'Ancien Testament. La conviction des croyants, appuyée sur l'enseignement des prophètes, est que Dieu est fidèle à ses promesses et que celui qui a libéré son peuple autrefois est celui dont la puissance a renouvelé à maintes reprises cette libération et la renouvellera encore à nouveau. C'est l'espérance, un mot fondamental pour la foi chrétienne. L'ensemble des livres historiques de la Bible peut être lu comme des livres d'histoire, à comparer avec des livres d'histoire profane, des Grecs, des Latins ou des modernes. En réalité, ils sont ordonnés comme le déroulement des interventions de Dieu, des merveilles de Dieu, tout au long de l'histoire de son peuple, qui est témoin de ces merveilles. Peuple de témoins. L'histoire, avec un grand H, est convoquée dans les livres bibliques parce qu'elle a un sens. Parce que le monde est ordonné selon le dessein de Dieu, pour prendre le vocabulaire biblique. Le sens de l'histoire, ce n'est pas seulement la préparation de l'incarnation et la conduite mystérieuse des événements du monde, ce qu'on appelait traditionnellement la providence, dans l'attente de la fin des temps. L'aventure terrestre, le cheminement des cultures qui naissent, culminent et s'éteignent, l'abondance des fléaux, des guerres, des épidémies, des catastrophes naturelles, sont de grands sujets de perplexité pour toutes les civilisations. Pendant de longs siècles, jusqu'au XVIIe siècle en Occident, a prévalu l'idée que le monde allait vers sa fin et que loin de s'améliorer, la condition des hommes ne pouvait qu'empirer. Et cette idée a été supplantée au XVIIIe siècle par l'idée de progrès. Merci, Michel. L'idée de progrès telle qu'elle va s'élaborer depuis le XVIIIe siècle, en raison du bouleversement apporté par les développements prodigieux des sciences et des techniques, n'est cependant pas suffisante pour expliquer le monde des hommes. L'homme contemporain, l'homme d'aujourd'hui, reste partagé entre l'émerveillement devant tous les apports des sciences pour un mieux-être et la rémanence, la permanence à côté de lui d'une barbarie à visage humain, c'est-à-dire inhumain. Attaché à discerner les signes des temps dans le monde tel qu'il est, les croyants chrétiens, je parle seulement d'eux, ce n'est pas exhaustif, portent une espérance plus forte que l'espérance simplement humaine. L'espérance est en effet chevillée au corps de l'homme, de cette espérance qui fait penser que ça ira mieux demain, même après les pires catastrophes, comme si cette espérance s'identifiait avec la pulsion fondamentale de la vie. L'espérance chrétienne, comme l'espérance juive, devant l'incompréhensible et l'absurde de la condition humaine, affirme que Dieu seul peut donner le sens et nous faire déchiffrer les signes qu'il donne. L'expérience de la libération suscite l'espérance des libérations à venir. Pour nous résumer un instant, l'Ancien Testament célèbre l'action du Dieu créateur et libérateur, mais les deux titres ne sont pas à mettre exactement sur le même plan. L'action du Dieu créateur n'est pas secondaire par rapport à l'action du Dieu libérateur, mais paradoxalement, au point de vue de la conscience d'Israël, Dieu est d'abord perçu comme libérateur, je le redis, avant de l'être comme créateur. Le Dieu national des Hébreux, Dieu parmi les dieux qui peuplent le monde antique, est d'abord vécu comme le lieu libérateur et soucieux de son peuple, le peuple qu'il a choisi parmi tous les peuples, le peuple qui est son héritage. Ce n'est qu'ultérieurement, et dans le contexte des peuples et des cultures qui l'entourent, qu'Israël va affirmer cette autre conviction fondamentale. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu parmi d'autres, dans le panthéon des Babyloniens, des Perses, des Grecs ou des Romains. Il est au-dessus de tous les dieux qui sont renvoyés au néant. Il est aussi le Dieu créateur. Vous savez comment les conquérants se comportaient avec les Juifs. La colonne Trajane à Rome nous rappelle les trophées de Titus. Quand Rome était victorieuse d'un peuple, elle emmenait les dieux de ce peuple prisonniers pour pouvoir les honorer dans le temple qui était construit exprès pour cela à Rome, qui s'appelle le Panthéon, c'est-à-dire le lieu de tous les dieux, pour que les peuples comprennent que leur dieu les avait lâchés et que leur dieu était passé du côté de Rome. Et on va retrouver ça d'une certaine façon avec l'esclavage des Noirs américains, quand ils vont penser que leur dieu d'Afrique les avait abandonnés pour passer du côté des Blancs, même si les Blancs n'avaient pas de panthéon en Amérique. Il y a la même idée que leur Dieu les avait abandonnés pour le Dieu qui avait été vainqueur, qui était le Dieu abominable des Blancs. Là, j'anticipe. Les récits de la création dans la Genèse, comme les psaumes qui les évoquent, sont conçus dans un but d'opposition aux croyances des autres peuples, affirmant un quasi-impérialisme du Dieu d'Israël, néant que tous les dieux. C'est gentil pour les croyances des autres. Hein. Ce n'est pas le Dieu créateur de toutes choses qui est aussi le Dieu d'Israël. C'est le Dieu libérateur tant de fois d'Israël qui est aussi le créateur de toutes choses. On peut parler en ce sens de la foi biblique comme d'un existentialisme et du champ de l'expérience croyante de la libération comme du lieu de la communion par excellence. Seuls les libérés peuvent parler du Dieu d'Israël, du Dieu de Jésus-Christ. Dans la grande collection des livres bibliques, il y a une partie avec laquelle les chrétiens sont plutôt embarrassés. Ce sont tous les textes qui touchent aux lois. Lois morales du Décalogue, mais aussi tout l'ensemble des lois placées sous l'autorité de Moïse dans le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah. L'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Quand les croyants lisent le livre de l'Exode, ils sont généralement émerveillés par les chapitres qui traitent de la sortie d'Égypte, jusqu'à l'exact milieu où a été enchâssé le texte du Décalogue. J'imagine, peut-être vous ne savez pas, mais alors je vais le dire, si vous le savez, excusez-moi, que le texte de l'Exode s'interrompt au milieu d'une phrase, pour enchâsser le texte du Décalogue, et après, la phrase continue. Pour bien montrer qu'on n'a même pas fait une couture, on n'a pas arrangé les choses. Mais dans le texte hébreu, la phrase s'interrompt pour laisser entrer le Décalogue, qui est là comme le diamant au milieu de l'écrin. Donc, quand les croyants lisent le livre de l'Exode, ils sont généralement émerveillés par les chapitres qui traitent de la sortie d'Égypte, jusqu'au Décalogue, où a été enchâssé le texte du Décalogue, mais ils sont fort embarrassés par tout ce qui suit, avec la description qui paraît interminable du sanctuaire, et toutes les lois qui l'accompagnent, ne s'intéressant, ça redevient intéressant vraiment, qu'à l'épisode du veau d'or et l'apparition de Dieu à Moïse. Lecture assidue du Lévitique, aujourd'hui comme hier, semble bien peu nombreux. Je sais que pendant de longues années, chaque année, j'essayais de prendre un livre de la Bible différent pour ma méditation personnelle. Et puis une année, je me suis dit, il faut que tu te coltines avec le Lévitique. Quand j'ai dit ça à mes collègues, ils m'ont dit que j'étais givré. C'est vrai, oui. Et il en est de même pour tant de chapitres des Nombres et du Deutéronome. Cela ne signifie pas que ces lois ont perdu toute pertinence. C'est tout de même dans le Lévitique qu'on trouve l'adage cité par Jésus « Aime ton prochain comme toi-même ». Oui, ce Lévitique dont on est givré quand on le lit. D'autre part, je ne sais pas, demande à Paul, il va te dire ça tout de suite. 19 quelque chose, oui. Soyez saints comme je suis saint. Bon. Non, c'est pour réhabiliter le Lévitique à vos yeux, si c'était besoin. D'autre part, les textes juridiques fondamentaux du monde contemporain, pour ne citer que la Déclaration universelle des droits de l'homme et tout ce qui en découle, ne sont pas étrangers à cet héritage. Notre héritage moderne, dont nous sommes relativement fiers, est aussi héritier des lois de l'Ancien Testament. Par rapport à notre thème de la session, il faut nous souvenir que la loi en Israël, telle qu'elle est proclamée par Moïse ou au nom de Moïse, est toujours présentée comme la loi des hommes libres. Elle n'est pas donnée, comme dit Vigny, à 600 000 Hébreux courbés dans la poussière, qui seraient comme autant d'esclaves. Parce que tu es libre, tu peux t'engager librement à servir l'Éternel, toi et ta maison. Dieu n'est pas présenté comme un despote oriental qui impose ses caprices et ses règles. Il les confie à Moïse, qu'il appelle son ami. La liberté est une réalité qui s'apprend. Et l'homme est ainsi fait qu'il a tendance à préférer l'esclavage à la liberté, l'asservissement de ses passions à l'exercice de sa responsabilité. Il transforme la loi de liberté en contrainte de son esclavage. Il interprète à son profit tout ce qui peut le positionner comme un être supérieur à ses semblables. Vous êtes très bien, tout ce temps que vous êtes. Je suis quand même mieux que vous. Tels les scribes dont Jésus dénonce l'hypocrisie dans l'évangile de Matthieu, vous vous souvenez, en Matthieu 23. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes « rabbi ». Et ça continue. « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi ». Nous connaissons aujourd'hui la lourde responsabilité des chrétiens quand ils ont confondu le légalisme des scribes dont parle Jésus avec la réalité de la foi juive et comment ils se sont fait des juifs à leur image. Il a fallu l'horrible drame de la Shoah pour que leurs yeux commencent enfin à s'ouvrir et je n'en suis pas absolument sûr. On peut écrire que le thème de la libération est le thème fondamental de la Bible, pas seulement de l'Ancien Testament, mais là je veux pas toucher à ce que vous direz, mais ça m'étonnerait que vous disiez dans le sens opposé. Donc c'est le thème fondamental de la Bible autour duquel tous les autres sont ordonnés, même celui de la création. Tous les livres du Premier Testament, sans exception, traitent de la libération des enfants de Dieu tout au long de leur histoire et célèbrent la promesse d'autres libérations. Les lois, quand elles sont données, sont la loi des hommes libres. Le Dieu qui libère aujourd'hui, c'est celui qui a libéré et qui libérera demain. Dieu nous est présenté non comme celui qui était, qui est et qui sera, dans une espèce d'impassibilité éternelle, loin du cœur des hommes. Il est plutôt, écoutez bien l'œuvre des séquences, telle qu'on la trouve dans le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 1er, verset 4. Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. Il est d'abord celui qui est pour nous, comme dirait Luther, celui qui est avec nous, Emmanuel, celui qui accompagne son peuple sur le chemin de sa libération. Ce à quoi s'ajoutera une autre expérience d'Israël, il est aussi celui qui l'accompagne dans sa servitude, celui qui part en exil à Babylone avec son peuple, celui qui part dans les wagons plombés pour Auschwitz. Il est ensuite celui qui est intervenu au cours des âges pour libérer l'humanité et dont les croyants célèbrent inlassablement avec les anges les merveilles. Il est non celui qui sera, mais celui qui vient, celui que notre espérance attend, celui à cause de qui nous restons en éveil dans la nuit du monde. Il est le passeur de notre Pâque. Vous savez tous que Pâque, Pessah, ça veut dire passage. La nuit de la libération, c'est la nuit du passage. Nous pouvons et nous nous devons de regarder les différents types de libération qu'on trouve dans le Premier Testament. Libération collective, comme libération individuelle, libération des ennemis, de la maladie, de la mort, des angoisses. Voilà pourquoi je vais vous proposer maintenant de lire ensemble, de découvrir ensemble le psaume 107. Alors je dis 107 hébraïque, selon la tradition juive et protestante, et 106 selon la tradition de la Bible grecque et latine, donc la traduction, la numérotation propre aux catholiques romains et aux orthodoxes. Alors comme vous vous êtes muni du psautier, mais avant que nous prenions le psaume, pour donner un peu de gravité à notre recherche, je voudrais parler d'une de mes expériences de pasteur. J'en ai parlé avec Agathe et Louis-Michel hier. Quand je suis arrivé à Poitiers, il y a une trentaine d'années, comme pasteur, il y avait plusieurs femmes autour de Poitiers qui étaient des rescapées de Ravensbrück. Et c'était l'époque où, je ne sais quel, le ministère de la Culture, le ministère des Anciens Combattants, essayait de faire témoigner dans des livres les témoins de ces camps d'extermination. On ne parlait pas encore du devoir de mémoire, mais c'est le début de ce qu'on appelait le devoir de mémoire. Pendant qu'il y avait des survivants, essayer de recueillir par écrit leurs témoignages. Et il s'est trouvé un groupe de quatre femmes a demandé à me rencontrer pour parler du problème qui se posait à elles. Donc il y avait, je pense qu'elle existe encore, une amicale des anciennes de Ravensbrück, dont l'ancienne présidente habitait à Poitiers et était protestante. Elles m'ont demandé à me rencontrer et elles m'ont dit, mais On essaye d'écrire des choses, mais on ne peut pas rendre compte. Ce qu'on écrit, c'est pas ça. Ce qu'on a vécu, on ne peut pas le transmettre. Parce que cette expérience de la bestialité, de la déshumanisation, du sadisme des gardiens et des bourreaux, l'esclavage abominable auquel elles avaient été réduites, avec tous les dangers aussi venant des proches, celles en qui on a confiance, qui tout d'un coup perd la tête et puis qui vous dénonce pour un morceau de pain. Tout ce monde que nous imaginons, mais en dehors duquel nous restons, on ne peut pas pénétrer un mur d'incommunicabilité. Elles ne pouvaient pas. Alors elles ont fait le livre, mais elles disent, mais nous ne sommes pas dans le livre. Et puis quelques années suivantes où la protestante est décédée. Je l'ai accompagnée dans les derniers jours de sa vie et nous avons préparé ses obsèques ensemble. Et elle m'a dit, Monsieur le pasteur, à mon enterrement, je voudrais que vous preniez le verset, je vous laisse ma paix. Mais il ne fallait pas se méprendre. Elle ne disait pas cela comme une affirmation de foi sereine du croyant rassasié de jour qui entre dans la plénitude de la paix. Elle posait beaucoup plus ça comme une question ouverte. Parce qu'elle savait qu'à ses obsèques viendraient toutes ses copines, tous les membres de l'association qui effectivement sont venus de partout. Et moi, quand j'ai parlé à la famille, j'ai parlé aux amis qu'elle s'était faite depuis qu'elle était revenue de Ravensbrück. Mais il y avait toutes ces femmes, il y en avait qui étaient croyantes, catholiques ou protestantes. Mais il y avait des communistes, qui avaient d'ailleurs été envoyées là-bas parce qu'elles étaient communistes. Il y avait des incroyantes, il y avait des croyantes qui avaient tellement été bouleversées par ce qu'elles avaient vécu qu'elles avaient perdu toute foi. Et elle me confiait cette charge de dire, comme testament, cette parole du Christ, je vous laisse ma paix. Et je ne pouvais pas le claironner comme. Il fallait essayer, moi qui suis à l'extérieur, comme vous l'êtes, d'essayer de prendre en compte cette intensité de cette expérience humaine pour essayer de rejoindre ces femmes qui perdaient une des leurs. Pour dire que l'Évangile fait passerelle, il permet peut-être de dépasser cette frontière qu'on a les uns avec les autres. Mais comment il le surmonte, comment il le fait, ça je ne le sais pas. Parce qu'on essaye d'être le plus honnête, le plus transparent possible par rapport à l'espérance dont on vit. Mais rejoindre des gens qui sont au-delà de ce que l'on peut comprendre, au-delà de ce que l'on peut exprimer, ça c'est aussi l'Évangile. Quand demain, on parlera des esclaves africains qui avaient le maître chrétien dans les conditions abominables dans lesquelles on les faisait vivre. Et quand ils ont découvert l'écriture, quand ils ont découvert les psaumes, par exemple ce psaume-là, vous pensez bien qu'ils l'ont reçu à une autre profondeur que nous avec nos petites misères et nos petits problèmes. C'est pour ça que si nous on prend le psaume maintenant, il faut à la fois qu'on le prenne pour nous, mais il faut aussi qu'on le prenne, je dirais, je ne vais pas dire pas sérieusement, mais qu'on le prenne à un niveau plus grave, qu'on joue sur des notes plus fortes que simplement notre condition personnelle. Quelles que soient d'ailleurs les épreuves insupportables que nous-mêmes nous ayons pu traverser. Peut-être avant de prendre le psaume, il me reste combien de temps? Un quart d'heure avant la
pour le premier temps, 20 minutes.
Bon, alors, je vais quand même prendre, avant le psaume, je vais prendre une prière d'Augustin. le grand, celui d'Hippone. Bon, Augustin, c'est un des théologiens que j'admire le plus. C'est une langue, il a un latin magnifique. Et en même temps, il me désespère à cause de son antisémitisme. C'est-à-dire qu'avec Augustin, on trouve les plus belles expressions de la foi chrétienne. Et pourtant, elle est entachée de ce qui, pour moi, est constitutif de notre identité par le péché des hommes. Pour moi, j'ai le péché que je porte, ce péché d'incompréhension, de ne pas aller comprendre l'autre, bon, et quelquefois mon incapacité totale à le faire. Ça, c'est mon péché. C'est parce que je suis pécheur que l'Évangile peut me rejoindre. Vous savez ce que dit Jésus? L'Évangile est annoncé aux pauvres. Comment est-ce que nous l'interprétons, cette parole? Généralement, chez tout ce temps que nous sommes, spontanément, c'est plutôt l'Évangile est aussi annoncé aux pauvres. Non? Spontanément, c'est il faut s'occuper des pauvres, il faut se pencher sur les pauvres. Donc l'Évangile est aussi fait pour les pauvres. Et si ça voulait dire l'Évangile est annoncé aux pauvres, point, pas aux autres. Si tu veux que l'Évangile te soit annoncé, il faut d'abord que tu découvres que tu es pauvre. Et pas que tu es pauvre, que ta belle âme est pauvre. Que tu découvres la condition de la pauvreté, de l'esclavage, de la déshumanisation, le manque. Alors je reviens à cette prière d'Augustin. Peut-être qu'on va arrêter et puis on attaquera le psaume après la pause. Mais je vais donner la prière avant. Et puis comme récompense, je vous donnerai aussi un chant. Je prends cette prière d'Augustin. J'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois, Seigneur, autant que j'ai pu. Autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché. Et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. Et j'ai beaucoup discuté. Et j'ai peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Ne permets pas que je me lasse de te chercher, mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l'une, guéris l'autre. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as fermé, ouvre à celui qui frappe. Que je me souvienne de toi, que je te comprenne, que je t'aime. Et pour que vous gardiez à l'esprit